Et bonsoir à tous, bienvenue sur Paris Central. On se retrouve ce soir pour le débrief déjà épique du match le plus flamboyant de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1 face au Bayern. René, non, j'ai dû me tromper peut-être d'introduction, excusez-moi les gars, on reprend plutôt. Bonne blague à tous et bonjour, on se retrouve après ce match nul, aussi bien littéralement qu'au sens propre. Un match nul qui nous permet quand même d'empêcher un point, mais un point qui fait quand même mal quand on voit les résultats de la concurrence, chose dont on parlera plus tard. Pour commencer justement sur ce débrief, j'allais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce match dans l'ensemble et on va faire comme d'habitude un petit ordre des caméras. Vas-y, Soura.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui nous écoutent. Match nul, c'est le terme qu'il faut employer, hein. Franchement, c'était pas du tout intéressant. On s'est fait chier devant notre poste de télévision. On s'en sort très très bien grâce à la très belle entrée de Gonçalo Ramos, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a des choses à revoir dans cette équipe, et notamment au milieu de terrain, parce que c'est quand même très inquiétant.
Milan?
Bonsoir, moi aussi, ouais. Alors moi, je vais être moins dur avec ce Paris Saint-Germain-là. Je ne trouvais pas si inquiétant que ça. J'ai trouvé même qu'il y avait des choses positives à retenir. J'ai trouvé le collectif bon. Individuellement, j'ai trouvé les joueurs pas assez à aller tenter des frappes, à aller tenter des choses. Et surtout, bon, bah, notre plus grand joueur qui, encore une fois, est un peu dans le compliqué, quoi. Mais bon, on va retenir ce joueur-là. On va retenir ce joueur-là, très fier de son rentrée. Et si on s'y rentre pas, je pense que on va pas chercher ce point.
Intéressant le commentaire du pointu, mais vas-y, Kev, à ton tour, je te laisse me dire ce que tu as pensé de ce match.
Ben, du coup, salut tout le monde, salut, salut aux auditeurs, à ceux qui nous regardent. Ben, du coup, comme Soura, moi je me suis fait chier devant ma télé. Je trouvais qu'on fait quand même une entame de match pas trop inintéressante. On essaie de déstabiliser le bloc rennais, mais dans l'ensemble, on touche trop de fois le ballon, on met trop de temps à jouer de gauche à droite. Mbappé, moi qui me saoule de plus en plus, on va pas se mentir, qui commence vraiment à me casser les couilles. Je suis désolé, mais je trouve ça honteux déjà de la part du club, du coach, de le mettre capitaine après que il ait annoncé, pas officiellement, mais que ce soit quasi fait officiellement, qu'il parte libre. Donc, je trouve qu'encore une fois, on baisse notre froc. Et ça me gave vraiment. Donc, voilà, il a encore un comportement honteux sur le terrain. Il y a des joueurs qui continuent à chercher à lui donner le ballon, alors qu'il y a des solutions de passe qui sont bien plus intéressantes et on ne respecte pas le football. Ça me gave aussi. Du coup, on s'entête à jouer axe, alors que face à un bloc qui est plutôt bas, qui défend axe, ballon, but, qui laisse très peu d'espace, tu te dois d'étirer. Et de jouer sur les côtés, mais non, en fait, on s'entête à jouer sur Mbappé. Il y a plusieurs fois où Barcola se retrouve dans des situations intéressantes, mais on ne lui donne pas le ballon. Et force est de constater qu'on rentre dans un jeu de chaise musicale individualiste et où à la fois tout le monde derrière commence à rentrer à chaque fois qu'il a le ballon sur un numéro individuel parce qu'on ne lui a pas fait la passe avant. Donc concrètement, c'était nul. Point positif, ben, l'entrée de Gonçalo Ramos. Qui pour moi, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, fait une très très bonne rentrée. Il a été extrêmement mobile. On voit d'entrée aussi sur son premier ballon dans la surface où l'enchaînement de contrôle frappe qui est contré et de qualité parce que il fait un contrôle dans le sens enfin, vers le sens du but. Il enchaîne par une frappe extrêmement rapide qui, je pense, aurait sûrement pu aller au fond. Et voilà, mais globalement, en fait. On va pas se mentir, la problématique, elle est au milieu de terrain. Je suis désolé, mais Fabián Ruiz, il est nul à chier, honnêtement. Je suis désolé, à un moment donné, il faut dire les termes. Il n'a pas le niveau du PSG, il n'a même pas le niveau d'être sur le banc du PSG. Ça fait plusieurs matchs. En fait, à chaque fois, on sort un bon match du chapeau face à une équipe très moyenne et on dit, oh putain, il revient bien. Non, il est nul, il n'a pas le niveau. Kangin Lee, c'est un joueur qui a le niveau pour jouer éventuellement à la Roma, à Tottenham, dans des clubs moyen, chapeau 2, chapeau 3, ça n'a pas le niveau pour jouer titulaire au PSG. Le problème, c'est qu'il a les caractéristiques de ce que veut mettre en place Luis Enrique, mais derrière, il n'a pas le niveau d'un club comme le PSG, d'où le fait qu'il soit régulièrement utilisé. Et Colomani y rentre, je suis désolé, mais il a encore perdu tous ses ballons. Voilà, c'est compliqué en fait, c'est très très compliqué individuellement, notre milieu de terrain est trop faible. Ne parlons pas de notre défense aussi qui se faisait trouer à chaque fois que Rennes attaquait, quoi.
Eh bien déjà bonsoir pour revenir rapidement sur ce match après la dissertation de Kevzor, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais pour aller sur le peu de choses qu'il n'a pas abordé, beaucoup de difficultés déjà pour moi à créer du jeu. J'ai eu l'impression que le fait que Ousmane Dembélé fasse un match moyen, ça a été très compliqué pour le PSG de se procurer des occasions. Barcola et Ousmane ont été très bien ligotés. Ah oui, on peut parler du fait que le Paris Saint-Germain a participé au pressing à la perte de balle pendant 20-30 minutes. Ouais, super, intéressant. Pour le reste, malheureusement, très très peu de choses intéressantes du côté du Paris Saint-Germain en ce qui me concerne. J'ai bien aimé l'entrée de Gonçalo Ramos et je pense que malheureusement, Greebirds ne sera pas dans le chat pour parler de lui ce soir après le multiple pressing des précédents lives. Mais sinon, oui, peu de choses. On peut parler de l'entrée de Nuno Mendes quand même. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et ça fait plaisir de le revoir. Sinon, à part ça, oui, bah peut-être justement, comme je disais précédemment, l'impression qu'on n'a pas saisi une perche qui a été tendue de la part de la Ligue 1 après les mauvais résultats de la concurrence ce soir. Et ce week-end, je pense que le Paris Saint-Germain avait, entre guillemets, une longueur d'avance à prendre en plus en championnat pour se sécuriser définitivement et pouvoir se focaliser sur d'autres objectifs comme la Coupe de France qui n'a pas été gagnée depuis plusieurs années et qui était un trophée important pour le Paris Saint-Germain, mine de rien. La Ligue des Champions aussi, si tu veux faire quelque chose dans cette compétition, sans même parler de la gagner, au moins faire un parcours cohérent et qui permettrait de remettre ce projet à l'endroit. Ben, il faut dire ce qui est, ce soir, tu rates un peu ce coche et bon, ben, ça arrive. Je pense que c'est pas quelque chose qui est unique en Ligue 1 sur cette journée, étant donné que la plupart des gros ont failli ce soir. Malheureusement, je pense que c'était trop peu pour qu'on puisse faire un long débrief super intéressant sur le match du PSG, parce qu'on est quand même sur un live débrief. Pour le reste, on en a fait un hier qui était quand même assez intéressant. Je vais du coup me pencher justement sur la première question de ce live, pour maintenant qu'on a fait la longue intro quand même, c'est vrai qu'elle n'était pas courte. Justement, la concurrence, comme je le disais, n'a pas, comment dire, nous a facilité la tâche en n'ayant pas fait une bonne prestation ce week-end. Est-ce que le PSG n'aurait pas mieux fait ce soir en se débarrassant de la concurrence, si je peux le dire ainsi, Soura?
La concurrence, c'est-à-dire...
Ben, Brest, Nice, Monaco, Lille.
Ah, il n'y a pas de concurrence, de toute façon, on l'avait répété assez souvent en Ligue 1. Pour moi, le championnat, il est plié. Il n'y a pas forcément des choses à dire par rapport à ça. Quand même Brest est sur une série de victoires assez intéressantes, que Rennes aussi était sur 6 victoires avant ce match nul-là. Mais pour moi, il n'y a aucun concurrent crédible au Paris Saint-Germain. L'année dernière, Lens, c'était une parenthèse enchantée. Aujourd'hui, on voit la réalité, hein. La réalité, elle frappe très très fort pour le RC Lens, pitoyable en Europa League et pas terrible en Ligue 1. Enfin, pas terrible, c'est leur niveau tout simplement, le top 6. Aujourd'hui, c'est Nice et Brest qui sont top 3. L'année dernière, c'était Lens. L'année d'avant, c'était Marseille. Et 5 ans auparavant, c'était l'Olympique Lyonnais. Donc en Ligue 1, il n'y a pas de concurrent. Ça, c'est pas très étonnant. Maintenant, même s'il n'y a pas de concurrent, il faut quand même que le Paris Saint-Germain arrive à produire des performances correctes en vue déjà de se préparer pour la Ligue des Champions et d'être un champion qui est capable réellement de dominer son championnat comme a pu le faire un Bayern sur certaines saisons, comme a pu le faire le Barça, le Real ou d'autres écuries européennes. Donc ça aussi, c'est un point qui, moi, m'importe un peu, c'est que il faut absolument que le Paris Saint-Germain devienne dominant sur l'échelle nationale. Quand même, on a 14 points d'avance. Ça, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Dans le contenu, dans ce qu'on propose dans le jeu, on n'est pas assez dominant pour moi et on ne montre pas de réelle satisfaction sur le jeu sur ces derniers matchs-là, même s'il y a quand même de bons matchs. Mais pour moi, sur ce qu'on a produit aujourd'hui, ça montre que le Paris Saint-Germain a encore beaucoup de progrès à faire pour être dominant sur ces terres.
Milan.
Ouais, on a joué un Rennes en confiance, voilà, depuis l'arrivée de Julien Stéphan sur le banc, on les sent en
Le
confiance,
retour
ils
plutôt.
ont, ouais, le retour, on va dire, enfin oui, on va dire oui, le retour de Julien Stéphan. Voilà, ils ont fait un bon match contre Milan, ils ont gagné, ils arrivent contre nous, ils font ce nul, même si je trouve qu'ils ont quand même, enfin on va pas dire de la chance, mais ils ont bien joué leur contre-attaque, on va dire ça. On a une défense qui a été catastrophique, dont un joueur qui a pour moi fait énormément d'erreurs malgré son expérience. Donc c'est un match compliqué du côté du Paris Saint-Germain, même si bon, encore une fois, moi je l'ai dit, j'ai trouvé quand même des choses positives. Hein. Individuellement, pour moi, c'est toujours ce qui reste en fait en bouche. Hein. Individuellement, c'est très compliqué. Même si je pense que bon, bah, parler de concurrence lors d'un match contre Rennes, qui aurait dû faire une grosse saison, là, ils arrivent en jambes. Mais bon, je ne les sens pas non plus très inquiétés dans ce match. Donc pour moi, c'est une erreur. Il va falloir juste continuer lors du prochain match et se remettre en jambes pour la Real Sociedad.
Kevdor.
Bon, il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Il n'y a aucune concurrence en Ligue 1. On va pas se mentir, si on commence à avoir peur du Stade Brestois en Ligue 1, c'est que ce sera problématique. La seule concurrence, c'est nous-mêmes. Et au jour d'aujourd'hui, comme le dit Luis Enrique, de toute manière, hein, La suffisance, étant donné qu'on ait des points d'avance, fait que voilà. Et puis certains manques criants dans notre effectif.
Oui, il y a certains manques. Justement, on reviendra un peu plus tard sur cela. Bon, pour conclure sur ce qui a été dit précédemment, on va revenir un peu sur ce que j'ai dit hier. Le problème aussi de la concurrence, si on peut l'appeler comme ça en Ligue 1, c'est qu'elle est très changeante. J'ai l'impression de voir rarement un dauphin qui se maintient en Ligue 1. Du côté du Paris Saint-Germain, l'année dernière c'était Lens, cette saison ça a été Nice, maintenant c'est Brest, on ne sait pas qui ce sera d'ailleurs en fin de saison. On a eu aussi du Lyon qui a fait une saison, il y a eu du Monaco, il y a eu du Lille, et finalement c'est vrai que le manque de stabilité de cette concurrence, peut-être n'aide pas le PSG, mais bon, finalement ce n'était pas le sujet de ma question. Mais pour revenir sur ma question plutôt, j'ai l'impression que ce PSG aurait pu justement se mettre un peu plus à l'abri en prenant encore plus d'avance avec deux points supplémentaires. Après, c'est vrai que le PSG n'a pas une énorme concurrence non plus, on va pas se mentir. Et vu l'avance que tu as pris déjà, c'est pas comme si tu avais un concurrent avec lequel tu étais au coude à coude pendant que tu jouais à la Ligue des Champions, et que lui, ce n'était pas le cas. Donc oui, question vite balayée. Sujet suivant, du coup. Pour le sujet suivant, justement, on va parler d'une thématique, entre guillemets, si on peut appeler ainsi le sujet. La première des thématiques qu'on allait aborder, justement, c'était... comment ça se fait, selon vous, parce que moi, je n'ai pas réussi forcément à me l'expliquer, que Luis Enrique ait mis Mbappé sur le banc en cours de match? Et là, ben, j'ai un peu inversé. Cette fois, j'ai laissé Kevzor commencer.
Mais moi, en fait, y a des choses que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je sais que... Enfin, Luis Enrique montre qu'il veut être vraiment le patron du bateau en faisant des choix forts, etc. Mais en... A contrario, il lui donne le brassard de capitaine. Alors qu'on sait que, a priori, il y a quand même eu des échanges assez tendus entre Kylian et Luis Enrique ces derniers temps, avec la non-prolongation et le fait qu'il parte, alors que Luis Enrique voulait vraiment l'intégrer pleinement sur un projet à moyen ou long terme. Donc, pour moi, en fait, c'est contradictoire. Je suis très content qu'il le sorte très tôt parce qu'il fait un match cataclysmique en termes d'intensité qu'il mettait. Il était très peu mobile, il se prenait pour un créatif à descendre très bas sur le terrain, il n'était pas dans la surface, enfin, il faisait tout ce qu'on n'aime pas de Kylian Mbappé. Mais encore une fois, tu vois, le faire sortir à la 65e, c'est très bien, mais par contre, pour moi, je trouve que ça aurait été beaucoup plus cohérent et de ne pas lui mettre le brassard, et s'il n'est pas bon, de le faire sortir à la 65e, parce que Ça reste contradictoire. Donc voilà. Maintenant, il va falloir que Mbappé prenne position très très vite, parce que là, j'ai l'impression que cette histoire sur la deuxième partie de saison va nous faire plus de mal que de bien.
Milan?
Bon, je suis plutôt d'accord. Après, pour moi, Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est compliqué. Surtout aujourd'hui, et je le redis encore, sur les derniers matchs, ça l'était aussi. La Real Sociedad, il n'a pas fait non plus un grand match la dernière fois en Ligue des Champions. Il ne le fait pas encore aujourd'hui. Je trouve qu'en fait, au niveau de ses standards, si on dit qu'il fait un mauvais match, c'est que bon, bah, quand on connaît Kylian Mbappé, on sait très bien ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il veut à chaque fois se perfectionner sur ce qu'il ne sait pas faire au lieu de justement se baser sur ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, encore une fois, tu fais jouer buteur, tu n'as pas de vrai numéro 9, et pourtant on essaie tout le temps de le chercher. Tu regardes Hakimi, c'est tout le temps passe à Mbappé. Pourtant, il y avait des choix peut-être plus intéressants à faire. Même au niveau des passes, je trouve qu'il y a des moments où Kylian ne joue pas assez, en fait. Enfin, il y a des moments où tu dois faire cette passe-là, tu ne la fais pas parce que bah, tu es Kylian et que tu fais un ou deux dribbles. Non, joue. Moi, justement, quand je dis que j'ai trouvé le PSG bon collectivement, c'est que quand tu regardais les passes, quand tu regardais ce qu'on voulait faire, je trouvais ça intéressant. Maintenant, le problème, c'est que si tu gardes Kylian Mbappé, bah, tu peux pas lui dire à l'équipe, bah, vous jouez comme ça, par contre, Kylian, il fait ce qu'il veut. Bah non, je suis désolé. Il va falloir aussi que tu trouves, d'un moment, les automatismes, ils doivent être là. Même si tu as besoin d'un joueur qui, sur un ou deux dribbles, va réussir à te faire quelque chose, ce joueur-là, tu l'as déjà. Dembélé, il est là. Ramos, quand il est rentré, on le sent tout de suite, il est positionné numéro 9 et il fait du bien parce qu'il joue, il est bien placé, il fait mal à la défense. Et aujourd'hui, grâce à qui on fait ce match nul, grâce à qui on fait ce point, bah c'est grâce à Ramos. Donc très clairement, il va falloir aussi se poser les bonnes questions avec Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Mbappé a de différent avec Barcola ou Dembélé cette saison, mis à part les stats? Parce que bon, il a beau marquer énormément de buts, sur ça on le remercie. Mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression, au niveau de l'implication, au niveau de la tactique, j'ai du mal, en fait, avec Kylian Mbappé.
Soura.
Nonchalant, pas dans le match. Ce qu'il dégage sur le terrain de manière en tant que capitaine, parce qu'il a quand même le brassard, c'est assez honteux. Il est sorti, c'est tout à fait logique. Lucien Riquet a enfin fait un choix plutôt cohérent dans ce qu'a proposé Kylian Mbappé ce soir, c'est-à-dire rien du tout. C'est assez fatigant de voir qu'il est souvent un petit peu nonchalant et pas forcément avec les joueurs dans ce qu'il propose. Il est faux numéro 9, bah, pour le coup, on ne l'a pas forcément vu dans les décalages ou même dans les combinaisons avec les deux ailiers, que ce soit Barcola ou Ousmane Dembélé. Il n'a pas créé de situation dangereuse pour pouvoir mettre le Paris Saint-Germain sur de bons rails sur ce match-là. Donc pour le coup, ce n'est pas forcément une bonne chose et une bonne nouvelle. Et le truc, c'est que face à la Real Sociedad, qui est qualification ou pas, c'est en fait, moi je me demande, c'est qu'est-ce que va faire Kylian Mbappé en championnat en fait ? Quel va être l'état d'esprit de Kylian Mbappé sur cette saison-là ? Parce qu'admettons que, et c'est un scénario qu'il faut envisager, mais admettons qu'il y ait catastrophe industrielle face à la Real et qu'on soit éliminé. Kylian Mbappé va faire quoi ? Luis Enrique va faire quoi ? Mais moi ce que je me dis, c'est qu'en fait, comment il est placé ? Qu'est-ce qu'il pense pour lui ? Si on se qualifie, ok, il y aura la Ligue des Champions, il va quand même se donner à fond. Du moins, j'espère pour lui, parce qu'il y a quand même l'Euro 2024 et d'autres échéances qui vont arriver. Mais en championnat, il n'est pas concerné. Il n'est plus dedans. Si Kylian Mbappé est déjà à Madrid, à Liverpool ou au Bayern, qu'ils nous le disent, comme ça, le dossier sera clos définitivement. Et nous, on sera tranquille. Parce que si c'est pour voir un Kylian Mbappé de ce niveau-là et de ce standing-là, on a juste à mettre Barcola, Ramos et Dembélé. Et au moins, on sera convaincu de voir qu'on a une équipe concerné à 100% sur le projet. Kylian Mbappé, moi, pour l'instant, de ce que je vois sur ces derniers matchs, je ne le sens pas concerné.
J'entends. Me concernant, je me dis qu'il y a un ensemble. Il y a peut-être justement, tu vois, ce truc de depuis que Mbappé a fait annoncer, parce qu'il n'a rien dit de lui-même, qu'il ne restait pas au Paris Saint-Germain, il est peut-être plus facile, effectivement, de ne pas forcément le faire jouer 90 minutes que s'il t'avait dit je prolonge pendant 5 ans, parce que ça a été dit aussi dans le chat, et oui, il y a des personnes dans le chat qui disent des choses pertinentes aussi. Oui, je pense que si logiquement Mbappé il t'avait dit je prolonge 5 ans et je m'inscris à long terme au Paris Saint-Germain, je ne pense pas que Luis Enrique aujourd'hui, malgré la mauvaise prestation, le mette sur le banc. Il y a un peu ce facteur-là, il y a aussi le facteur de l'importance du match, comme l'a dit Soura, je pense que c'est pas la même chose que ça arrive au moment où tu joues contre Rennes, que si tu joues en Ligue des Champions, match retour, et que tu es sur la mauvaise pente, où tu te dis que Mbappé, même si pas bon, il peut toujours te marquer un but à la fin. Je renvoie son match en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine d'ailleurs. Donc oui, tu peux te mettre sur ces standards-là et expliquer ça par ça. Mais je pense aussi que c'est un peu tout. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse sur cette question, et qu'au final, c'est un ensemble de plusieurs petites choses qui font la sortie actuelle de Mbappé, chose que tu n'aurais pas vue précédemment en tout cas. Et justement, maintenant, je vais me permettre de poser la question. Ouf. Déjà, je vois que dans le chat, vous êtes très, très actifs ce soir. Je suis désolé, j'ai du mal à tous vous faire passer tellement il y a des commentaires. Mais là, je pense que je vais avoir encore plus de mal quand je l'ai demandé à tout le monde. C'est qui vos top et flop de ce soir ? Soura ?
Top, Gonzalo Ramos. Il a tout changé dans cette équipe, que ce soit dans la manière dont il arrive à décaler des espaces pour ses ailiers. Il attire les défenseurs. Ça, c'est les qualités qu'on m'a dénotées chez lui. Vraiment cet esprit renard des surfaces assez instinctif en tant que numéro 9, où déjà il provoque un pénalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre une première fois, et il en provoque un deuxième, et derrière il le transforme, et ça va être bon pour la confiance pour lui. Donc ça sera mon flop sur ce match-là, mon top, pardon, sur ce match-là. Et après, bon, il n'y a pas trop. Y a Guiri en top, ce qui met un superbe but pour ouvrir le score face au Paris Saint-Germain avec le Stade Rennais. Et en flop, Danilo Pereira, il s'est fait manger par Guiri sur deux occasions. Une occasion, il prend un grand pont. Deuxième occasion, il mange le sol. Ça, c'est quand même assez pathétique de sa part. Autre flop, Kylian Mbappé, le capitaine. Il n'a pas été au niveau ce soir, encore une fois. Et ça montre qu'il n'a pas été impliqué du tout sur ce match-là. Fabian Ruiz, beaucoup trop lent. Il est trop lent.
D'ailleurs, on a droit qu'à 3. Hein, ça va être compliqué. Hein.
Voilà, c'est mon troisième, c'est mon dernier. Mais
je sais que
ce
n'est pas facile ce soir.
dans ses transmissions, dans la manière dont il oriente son corps, dans son jeu de position, même quand il va essayer de combiner avec ses joueurs, il y avait une action la dernière minute où c'était Nuno Mendes qui combine avec lui. Pareil, tu ne donnes pas le ballon dans le bon tempo dans la course, tu conserves la balle, c'est lent. Ça, c'est des choses qui m'énervent un petit peu avec Fabian Ruiz, où c'est un défenseur qui a un milieu de terrain qui, déjà, c'est un diesel pour pouvoir bien démarrer, mais c'est un diesel pour pouvoir bouger aussi. Donc, flop pour ma part, Fabian Ruiz.
Milan ?
Moi, je vais commencer par Ramos en top. Franchement, Ramos, quelle rentrée, hein. Je l'ai écrit sur Twitter. Franchement, il m'a impressionné. Et j'ai l'impression de retrouver le Ramos que je regardais à Benfica et dans sélection portugaise. Il a été tout de suite concerné par le match. Et on le sent tout de suite. Et tu sens que, bon, bah, voilà, il y a cette rage. Il rentre, il débloque des situations. Après, je vais mettre, je pense, Lucas Hernandez. Voilà, je pense que c'est un des joueurs que tu ne peux pas enlever de cet effectif. C'est un des joueurs les plus fiables qu'on a cette saison, et même l'un des plus fiables que j'ai pu voir au Paris Saint-Germain, en tout cas sur les 6 premiers mois qu'il fait. Et après, je pense qu'en top, je vais mettre la rentrée de Nuno Mendes. Je ne vais pas parler de Nuno Mendes. Ce serait compliqué de le mettre en top parce que bon, bah, Nuno Mendes ne fait pas non plus une grande entrée, et c'est normal vis-à-vis de son temps sans jouer et de sa blessure. Mais franchement, non, ça fait plaisir de le revoir. Après, en flop, franchement, bah, moi, pour moi, Kylian Mbappé, encore une fois, il me déçoit, et il me déçoit de jour en jour avec le Paris Saint-Germain. Ça m'énerve parce que bon, bah, quand tu connais le grand Kylian Mbappé qui était là il y a quelques saisons, c'est lui qui faisait les différences contre le Real Madrid, contre des gros clubs, et tu le vois, t'as l'impression qu'il pense qu'au stade, c'est dégueulasse pour moi, hein, je suis désolé. Après, Danilo, pour moi, franchement, sur le but, bah, il est vachement fautif. Franchement, même si Goury est un excellent joueur qui fait ce qu'il faut faire, Danilo, je le trouve en dessous. Franchement, même Beraldo, j'ai trouvé plus intéressant dans ce match-là que Danilo. Alors, c'est pour dire. Et après, en flop, je mettrais aller Kanginli. Je pensais le revoir bien. Et je ne trouvais pas son match ultra top. Alors, il y a Fabian Ruiz, mais Fabian Ruiz, bon, on n'en parlera pas parce que ça ne sert à rien. Mais pour
T'as
moi,
droit qu'à trois, c'est là où c'est compliqué.
Justement, c'est Kanginli, pour moi, a été décevant. Enfin, c'est un joueur qui est censé justement t'apporter quelque chose au milieu de terrain. Et j'ai trouvé Asensio plus intéressant dans ce match quand il est rentré.
Quelzor.
Top, de toute façon, il n'y en a pas 50, hein, on va pas se mentir. Ramos fait une très bonne rentrée. Et si pour moi tu dois sortir un autre joueur un petit peu du lot, ce sera Dembélé qui a quand même fait quelques trucs qui sont assez intéressants, même si encore une fois, hein, on sait quels sont ses défauts. Mais je trouve que Dembélé fait pas de mauvaises choses. C'est vrai que Lucas Hernandez fait pas un mauvais match, mais il fait pas non plus un bon match, parce que je trouve que face à une équipe rennaise très basse sur le terrain, il a joué très bas. Donc en fait, il a fait un match assez quelconque. Après en flop, de toute façon, on va se répéter, mais Danilo, il fait un match exécrable. Son positionnement, son recul frein n'est pas bon, l'orientation de son corps, même avec le ballon, je suis désolé, hein, mais il fait partie des joueurs qui font qu'on est en difficulté pour déséquilibrer un bloc bas. Il est trop lent, il touche trop le ballon, il met pas de vitesse dans sa transmission, et ça concrètement, c'est une problématique. Donc voilà. Maintenant, la rentrée de je vais pas m'acharner, mais la rentrée de Colo, elle a montré dans toutes les écoles de foot pour ce qu'il ne faut pas faire en rentrant dans un match de football. Mbappé, son comportement, son attitude, son implication, c'est catastrophique. Donc voilà, mais de toute façon, on va pas se mentir. Après, j'ai une petite parenthèse, tu m'excuses, tonton. Hein. On a eu un
Vas-y.
débat, on a eu un débat en off, hein, mais moi, ça me fait quand même bien rigoler, hein, que certaines personnes veulent encore mettre Marquinhos dehors du PSG. Uniquement pour mettre titulaire Danilo, parce que c'est un soldat, c'est un joueur qui donne tout. Au jour d'aujourd'hui, les gars, quand Marquinhos n'est pas là, eh ben, depuis le début de la saison, c'est un fait. On est en difficulté défensivement, on est en difficulté dans la relance. Notre projet de jeu n'est pas le même en termes de transmission, parce qu'il fait partie intégrante. Et aujourd'hui, il n'y a pas 5 défenseurs qui sont meilleurs que lui cette saison. Voilà, donc je le dis haut et fort, faut arrêter de trouver des boucs émissaires. Marquinhos fait partie intégrante de nos meilleurs joueurs cette saison, et largement, il a raté. Il a fait un mauvais match à Newcastle, et on ne retient que le mauvais. Donc, je suis désolé. Danilo, il a fait 3 bons matchs cette saison, et on ne retient uniquement parce que c'est un soldat.
Après, Shiraz, est-ce que tu as déjà vu Harry Kane avec Kevzor dans la même pièce au même endroit? Pas sûr, pas sûr. Un peu comme Batman. Mais pour
J'ai
revenir
pas, je
justement
te dis que
sur
j'ai
les
pas
top.
mis un doublé hier soir.
Exactement. Qui dit qu'il parle pas très bien anglais? Mais justement, pour revenir sur les tops et flops de ce match, les tops, ça va aller vite, hein, j'en ai pas 30. Hein. Bah, Ramos, hein, superbe entrée, beaucoup d'envie, beaucoup de vice aussi. Hein, il faut en avoir quand même. Et c'est ce que j'aime bien, ce qu'il a à ce poste. Encore jeune, pas forcément le numéro 9 générationnel, mais je pense que si tu lui laisses du temps de jeu et que tu lui laisses le temps, bah, de prendre confiance, peut-être que tu peux en tirer quelque chose de positif au Paris Saint-Germain. Autrement, autre top, Allez, si, quand même, pour le kiff, l'entrée de Nuno Mendes que j'attendais depuis très, très, très longtemps. Bon, il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses ce soir, mais je pense qu'à terme, c'est un joueur qui, sous Luis Enrique, va être très intéressant et bien mieux utilisé que sous Galtier et Mauricio Pochettino. Au niveau de mes flops, bah alors bon, j'ai essayé de me démarquer un petit peu quand même aussi, hein, parce que c'était pas facile d'en dégager que trois. Moi, je vais noter tout de suite Vitinha. On avait parlé de son très bon match qu'il avait fait en 6 précédemment, et j'avais dit que dans certains matchs, le très faible niveau défensif de Vitinha allait coûter cher, et ça s'est vu sur le but qu'on a pris, parce que autant il faut charcler Danilo, et je viendrai à son cas après, mais Vitinha n'est absolument pas innocent sur le but que met Guiri, et sur l'action suivante où Guiri a failli mettre un deuxième but, Vitinha a entièrement sa part de responsabilité. C'est un joueur qui, bah, comme Fabian Ruiz, ballon au pied, a les qualités techniques que demande Luis Enrique à ce poste. Par contre, défensivement, ça posera problème si tu tapes un Real Madrid, un Bayern, un Manchester City en quart. Au moins, grâce au Stade Rennais, on est définitivement fixé de ce point de vue-là. Non, je ne suis pas dur avec Vitinha. Je suis même très, très réaliste, Hassan. Être réaliste, c'est dire Vitinha, il a les qualités ballon au pied pour être 6 sous Luis Enrique. Là, je suis réaliste. Par contre, défensivement, il est à la ramasse, il est aux fraises, et ça, c'est vu.
T'entends.
C'est pas que de sa faute, parce que c'est pas son profil, c'est pas son poste, c'est tout.
C'est bizarre, on a un 6 qui peut jouer à sa place. Bizarre.
T'entends. Tu sais ce que ça me rappelle ? Quand on faisait jouer Lo Celso en numéro 6.
Exactement.
En sachant que Lo Celso avait plus de qualité que Vitinha, hein, concrètement, footballistiquement parlant, sur le jeu de l'avant, sur la verticalité, etc.
C'est que t'as un peu envie de recréer le nouveau Verratti en fait à ce poste, et tu y arriveras pas parce qu'il y en avait qu'un seul, et c'est comme ça, faut passer à autre chose. Autre de flop, je vais mettre forcément Danilo, parce que Danilo, beaucoup de mal ce soir, il a fait des très très bonnes copies au PSG, j'ai pas peur de le dire. Par contre, ce soir, c'est clairement pas celle que je vais prendre en exemple. Impliqué comme il faut sur le but, il prend un grand pont, littéralement. J'ai eu l'impression de me rappeler ma jeunesse dans le sud de la France, avec une petite cape rouge, un petit olé là avec le taureau, j'avais l'impression d'être dans une arène de corrida. Et ensuite, beaucoup de mal Danilo ce soir, donc forcément, il faut le dire. J'espère d'autres prestations de lui, mais ce soir, c'est une catastrophe. Et en dernier flop, j'ai du mal, parce qu'il y a du monde. Il y a du monde qui postule. Ça peut être Kanginli, ça peut être Kylian Mbappé, ça peut être Fabian Ruiz, ça peut être Achraf Hakimi, ça peut aussi être Ousmane Dembélé, de mon point de vue, qui a eu énormément de déchets, et pourtant, j'aime beaucoup ce joueur et je le défends beaucoup. Mais je pense que je vais aller sur Fabian Ruiz, beaucoup, beaucoup trop neutre ce soir. Rien à porter de positif, il est grand mais ne gagne pas de duel de la tête, il est gaucher, placé à droite dans le milieu pour être sur son beau pied mais n'en profite pas. Trop compliqué. Oui, on aurait pu mettre Enrique aussi, Ramès, en effet, dans les flops, mais comme j'ai dit, beaucoup trop de flops, et si je dois en prendre un, ce sera Ruiz. Et pour ce soir, en tout cas, alors je l'invite à faire d'autres prestations, parce que lui aussi a montré qu'il était capable d'avoir d'autres prestations d'un meilleur calibre que celle de ce soir, mais pour celle de ce soir, désolé, j'ai un peu du mal à le rater, quoi.
Même par rapport à un certain joueur qui avait été dit dans les commentaires par rapport à Hakimi, si Hakimi lui aussi il a sa tête au Real Madrid, il nous le dit, il dégage, hein, parce qu'au bout d'un moment.
Ah, mais ça j'en ai parlé hier soir, tu vois, ça tombe
depuis,
bien.
Depuis la CAN, c'est une catastrophe. Alors je sais
après, si retour de CAN. Ou
le penalty. Ouais, mais il a eu une semaine de vacances. Je sais pas si le penalty raté lui est encore resté dans le cerveau ou il y a un problème, mais pour le coup, c'est pas possible autrement. Ce qu'il propose sur ces derniers matchs, c'est catastrophique.
C'est alors, sur cette deuxième partie de saison, ça, hein.
Ouais, mais je sais pas si Mbappé lui a dit bon, je vais au Real, donc viens avec moi, mais en tout cas, c'est pas au niveau. Et on peut pas sortir l'argument
de
la
CAN pour moi.
Osimhen fait finale de CAN. Osimhen fait finale de CAN.
Et tu l'as trouvé flamboyant cet après-midi ?
Bah, il est en forme pour le coup, il marque deux buts.
Et tu l'as vu, son super double poteau aussi.
Oui, c'est pas parce qu'il rate une occasion que. En fait, parce que je suis d'accord avec Soura, honnêtement, concrètement. Il y en a beaucoup qui disent ouais, Marquinhos, ça, si, ça, ça. Et mais Hakimi qui a pleuré après avoir raté son pénalty de la CAN. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui lui tombe dessus. Alors que c'est la même chose pour Marquinhos quand il avait raté son pénalty en Coupe du Monde. Ensuite, Hakimi, qui contrairement aux autres joueurs de la CAN, quand ils ont été éliminés, deux jours après, ils étaient titulaires. Hakimi, on lui a laissé 7 jours de repos. Il n'a pas rejoué pendant je ne sais combien de jours. À un moment donné, voilà, moi c'était mon meilleur joueur de cette première partie de saison. Hakimi, parce qu'il était vraiment vraiment en forme, il apportait vraiment quelque chose, etc. Mais là, il est vrai que depuis janvier, c'est compliqué. Il est moins impliqué, il commence à s'énerver, il parle beaucoup avec l'arbitrage. Et à un moment donné, il va falloir aussi se poser les bonnes questions. S'il veut faire comme dans Prison Break, à tenir la poche à T-Bag pour Kylian Mbappé, il le dit de suite. Et on fait la même chose, parce que concrètement, ce dossier-là aussi, on va devoir l'ouvrir. On est beaucoup sur Kylian Mbappé, mais on sait très bien que l'après Kylian Mbappé, le dossier Hakimi va arriver sur la table. Il a 2 ans et demi de la fin de son contrat.
C'est ça.
Donc, Donc voilà, à un moment donné, il va falloir aussi que les choses soient claires et que le club soit en capacité aussi de pas, on va dire, baisser son caleçon pour parler poliment et d'être en attente de tout le temps des joueurs qui nous prennent pour des cons, honnêtement.
Là, c'est dommage que tu n'étais pas dans le live d'hier. En fait, j'ai répété vite fait ce que j'ai dit dans le live d'hier parce que c'est un sujet qu'on a abordé, notamment à la prolongation de Hakimi. Parce qu'il y a aussi le problème avec Donnarumma qui va rester 2 ans de contrat, mine de rien, cet été. Hein. C'est pas le seul, Hakimi, à qui restera 2 ans de contrat. Pour moi, en fait, tu dois adopter, entre guillemets, la mentalité Bayern. C'est-à-dire que quand un joueur arrive à 2 ans de la fin de son contrat, tu prends le temps avec lui, tu te poses, tu lui dis, écoute, soit tu restes avec nous et tu prolonges et tu t'inscris à moyen, long terme dans notre projet et c'est réglé.
Soit voilà, tu t'en vas cet été, point final.
Voilà, soit tu ne veux pas rester et tu as un autre club en tête et tu as le droit, mais à ce moment-là, tu nous le dis et tu pars. Et comme ça, nous, on peut se retrouver derrière et on se retourne, tu vois. Voilà, c'est tout. Tu vois, c'est pas d'animosité. Tu as le droit d'avoir envie d'autre chose. Tu as passé 3 ans au club, tu as donné ce que tu as pu. Une dernière saison bien meilleure que les 2 dernières au passage. Mais voilà, si tu as envie de quitter le club, il n'y a personne qui te retient. Juste, tu nous préviens à l'avance et tu nous fais pas le coup du cocu en mode je ne veux pas quitter le club, mais je ne veux pas prolonger alors qu'il te reste un contrat. Ça ne marche pas.
Après, Donna, s'il faut parler. Ouais.
Vas-y.
Non, je dis, si pour parler de Donna, après, Donnarumma, pour moi, au niveau de la mentalité, contrairement à Hakimi, il a toujours été présent, mis à part après le Real Madrid, où il y a un petit coup de moins bien, même pas pendant le Real Madrid. Mais je trouve que ouais, Donna, moi, je l'ai vu dans les commentaires, je le prononce sans voix. Après, ce que je disais par rapport à ce que tu disais, Kevzor, c'est qu'il faut arrêter de trouver des excuses à tout bout de champ pour des joueurs qu'on aime bien ou des joueurs qu'on n'aime pas. Il y a des joueurs, ils se prennent 100 000 insultes pour rien. Vitinha, on le voit, bon, même s'il fait pas un bon match aujourd'hui, il se prend des insultes de ouf. Et il y en a, on est trop indulgents avec eux. On est trop indulgents. Kylian Mbappé, on est trop indulgents. Il y a des gens, ils sont trop indulgents avec lui. Quand tu vois ce que Neymar, Verratti, Messi, bon, Messi, moi, je comprends, mais s'ils se sont pris au Parc des Princes après, enfin, vis-à-vis de leur départ ou peu de temps avant leur départ, et aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est ah bah non, on respecte. Les gars, si Kylian Mbappé sur le terrain, c'était parfait. Bien évidemment qu'on respecterait, mais là le problème c'est qu'il n'y a rien qui est parfait, même au niveau de la mentalité. Enfin, pour moi,
non, c'est, normalement... mais là, même on ne respecterait pas. Je suis désolé, le joueur le plus cher de l'histoire du football ne peut pas partir libre de soi-disant son club de cœur. Je suis désolé, ça n'est jamais arrivé.
Est-ce que son club de cœur c'est le Real Madrid ou c'est le PSG? Là la question se pose.
Non, c'est qui aujourd'hui qui lui a permis d'en être là où il est aujourd'hui?
Ah mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais après,
Ronaldo à 34 ans est parti à laisser 100 millions dans les caisses du Real Madrid. À 34 ans. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est quoi? C'est 26 ans, on est d'accord?
25.
Ouais, c'est 25
ans. 25 ans, va partir libre, c'est le joueur le plus bankable de l'histoire du football mondial. La seule chose qui, pour moi, pourrait atténuer, entre guillemets, et encore, je lui en voudrais, c'est qu'il nous fasse gagner la Ligue des Champions. Mais il faut arrêter de croire au miracle. Cette saison, nous n'avons pas l'équipe pour gagner la Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, je suis désolé, le joueur le plus bankable de l'histoire du football ne peut pas partir après 7 ans gratuitement. Il ne peut pas. Alors, dans ce cas-là, tu fais un gentleman agreement, tu prolonges d'un an, même si le Real nous lâche 150 briques, au lieu de lui donner ses 150 briques à lui, oh, c'est qu'une question de pognon, il a envie de s'en mettre plein les poches. Son documentaire en dit long avec la façon dont sa maman le dit, si on pouvait prendre 10 milliards, on les prendrait. C'est pas normal.
Après, ce que dit Dom Pogo, je suis désolé, hein, meilleur buteur du club depuis 5 ans, on a été beaucoup plus dur avec Edinson Cavani, alors que il était quand même mentalement et au niveau de la prestance beaucoup mieux au Paris Saint-Germain. Faut arrêter. Kylian Mbappé, au niveau de ses sorties médiatiques, au niveau de plein de choses, et Neymar et Messi, c'est la même chose. Hein. Il y a trop de choses qui font que Kylian Mbappé aujourd'hui, il n'a jamais su nous rassurer. Même au moment où il prolonge au Paris Saint-Germain, il fait un post Instagram où il dit « Je serai le plus grand supporter du Real Madrid en finale ». Est-ce que ça, c'est pas du manque de respect pour nous, Parisiens? Sérieusement.
Ah, mais pour alors, répondre à Swapper aussi.
Voilà. Merci déjà pour le don, déjà.
Mais Messi, il est arrivé gratuitement au Barça. Kylian Mbappé est arrivé à 180 millions au PSG. À 17 ans.
Sans le salaire.
Et on ne va pas comparer l'apport de Messi au Barça, celui de Kylian Mbappé au PSG, parce que quand même, on ne va pas tirer gratuitement sur un joueur que nous aimons bien quand même et qui est le meilleur buteur de l'histoire de notre club avec tout le respect qu'on a pour lui. Mais non, maintenant, mais je vais me permettre.
Voilà. Moi, attention, je vais te permettre. Tonton,
tu dois y aller.
Y aller. Ouais, je suis de repas.
Voilà. Mais pour ne pas que ça tourne trop à une partie de chasse souris chat dans le chat, moi, je vous propose plutôt que je sélectionne, entre guillemets, les commentaires que j'ai trouvés pertinents pendant ce live et justement, on va y répondre tous ensemble. Alors, bon, le premier, je vais le laisser à Kevzor avant qu'il s'en aille, justement. Ah mince, je l'ai désélectionné. Zut. Je te laisse celui-là, du coup, Kevzor, vas-y. Est-ce que pour toi, c'est des postes prioritaires? Et si oui, quel profil tu irais chercher?
En fait, tout dépend des joueurs qui vont vraiment partir cet été. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est le milieu de terrain. On a besoin absolument de deux milieux de terrain. Moi, je suis pas convaincu qu'en défense, si Nuno Mendes revient correctement, on soit prioritaire sur ce poste. Parce que si tu as Nuno Mendes, pour moi, tu pourrais activer une charnière Hernandez-Marquinhos qui serait extrêmement complémentaire et extrêmement cohérente. Pour moi, c'est la meilleure défense centrale qu'on peut aligner avec ce PSG-là, même si Skriniar est dispo, etc. Avec Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés, qui colleraient parfaitement sur des dédoublements Barcola-Dembélé, vraiment, tu aurais des couloirs de feu, etc. Maintenant, au milieu, tu as un manque, il te manque à minima, deux top joueurs. Parce que le seul joueur qui est au niveau dans ce PSG-là, c'est Warren Zaïre-Emery, qui vient de faire 18 ans. Non, il vient pas. De faire 18 ans. Cécile les a fait.
Ah ouais?
Ouais.
Il n'est pas né le 8 mars. Il les a pas
il me semble qu'il est de mars, non, Warren.
Alors, autant pour moi. Autant
il me semble qu'il est de mars. Oui, c'est bientôt. Quelques heures dans les faits, t'as pas tort, c'est dans deux semaines.
C'est, dans tous les cas, c'est honteux que notre milieu de terrain, dans un jeu de possession prôné par Luis Enrique, qui demande d'avoir des milieux de terrain qui soient, comment dirais-je, qui soient, en fait, qui soient complets. On a toujours eu des milieux de terrain très bons dans un domaine, mais moyens dans l'autre et nuls dans un autre. On a besoin de joueurs qui soient complets, très bons dans le duel, bons techniquement, en capacité d'envoyer nos attaquants dans les bonnes dispositions, qui soient très mobiles. Tu vois, des gars comme Kimmich, comme Guimarães, ce style de milieu de terrain que nous n'avons pas. Parce qu'aujourd'hui aussi, pourquoi il y a très peu d'appels en profondeur? C'est parce qu'on n'a pas un seul milieu de terrain qui fait une passe vers l'avant en profondeur. À ce point-là, nos joueurs qui font des passes pour Mbappé en profondeur, c'est Marquinhos, c'est Dembélé, c'est Hakimi. Voilà. Nos milieux de terrain, Vitinha, oui, certes, il ne fait pas une mauvaise saison. Mais globalement, si tu veux vraiment pousser le vice, Vitinha, il ne fait pas une passe en profondeur.
C'est ça.
Il joue de manière latérale, très peu de verticalité, ou en retrait, très régulièrement, où il arrête le jeu et ralentit le jeu. Ougarté, ça ne fait pas une passe vers l'avant. Warren, c'est très fort à son âge, mais encore une fois, sa qualité première, ce n'est pas la passe en profondeur, c'est la percussion avec ballon, son volume de jeu, les duels. Et c'est un joueur qui casse des lignes par la percussion avec ballon. Donc, en fait, il nous manque vraiment deux top milieux de terrain. Si on n'arrive pas à compenser ça cet été, en fait…
T'inquiète, on t'entend, même si on ne voit plus. Mais écoute, je pense que Kevzor nous a malheureusement définitivement quittés. Du coup, je vais poser la question suivante à Soura. Est-ce que pour toi, tu vois toujours Mbappé capitaine ou non?
J'ai bugué.
Attends, je te laisse finir.
Je termine, après, dans tous les cas, je vous laisse parce que je dois partir. Et j'allais dire, si on ne recrute pas ces deux top milieux de terrain, pour moi, la venue de Luis Enrique n'aura aucun intérêt parce que le jeu prôné, le projet de jeu qu'il veut mettre en place ne correspond pas en fait à l'effectif qu'on est en train de lui construire. Et ça, en fait, c'est indissociable. Je suis désolé, c'est indissociable. Sur ce, mes amis, je dois vous laisser. Pensez à liker, passez une bonne soirée, un bon dimanche soir et allez Paris.
Prochaine Kevzor. Et justement, la prochaine question, elle vient pour Soura, qui est, est-ce que pour toi, Kylian Mbappé doit toujours être capitaine de ce Paris Saint-Germain? Parce que actuellement, bon, je le rappelle, vu que ça a été quand même questionné dans le chat, Kylian Mbappé, il me semble que c'est le vice-capitaine. Ça veut dire que quand Marquinhos n'est pas là, c'est lui qui doit enfiler le brassard, et ce qui expliquerait plus ou moins la logique de pourquoi il a été ce soir. Est-ce que pour toi, tu maintiens ce rôle de vice-capitaine, ou est-ce que tu le rétrogrades dans la hiérarchie maintenant que c'est acté qu'il ne restera pas?
Pour moi, Mbappé n'est pas un leader. C'est pas un leader né comme il pense l'être. Je comprends pas cette manie de la part de Mbappé de vouloir être capitaine d'une équipe. Déjà, il est capitaine de l'équipe de France. Il a quand même réussi à faire un sacré coup de force en prenant le brassard qui était potentiellement promis à Antoine Griezmann. Donc, pour le coup, pour moi, c'est pas un capitaine, c'est pas un leader sur, c'est pas un leader. C'est un leader sur le terrain par ses capacités, parce qu'il arrive à prouver balle au pied et à changer le cours du match à lui tout seul. Mais c'est pas un capitaine. Iniesta n'était pas un capitaine à ses débuts, en tout cas. Il y avait un Carles Puyol incarnait le FC Barcelone comme pouvait incarner par exemple un Thiago Silva. T'avais pas besoin que Messi soit un capitaine pour être un leader sur le terrain, parce qu'il produisait sur balle au pied. Après, c'est sûr que peu de temps après, il est devenu capitaine par la force des choses, parce que voilà, c'était lui le meilleur joueur. Mais sinon, pour moi, Mbappé n'a rien à faire avec le brassard de capitaine, et moi ça m'énerve un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il veut tout, les coups francs, les pénaltys, les corners, le brassard. Bientôt il voudra peut-être une statue à son effigie, donc on sait jamais. Mais pour moi, non, il ne doit pas avoir le brassard. Moi, je l'aurais donné à Danilo Pereira, parce que quand bien même ce joueur n'est pas forcément un excellent joueur et n'a pas le niveau du PSG. Lui, c'est un leader. C'est un leader de vestiaire. Ça, c'est connu et ça se sait. À Porto, il était capitaine à Porto. C'était le capitaine de son équipe et c'est un leader du Paris Saint-Germain et du vestiaire. Les gens l'écoutent. Donc, c'est ce genre de joueur dont tu as besoin. Marcelo aussi, quand il n'était pas forcément à son niveau, ça restait quand même un leader de vestiaire au Real Madrid et il était capitaine aussi par l'ancienneté et par ses performances. Mais pour le coup, Kylian Mbappé, non, il n'a pas besoin du brassard. Ou même, comme a dit Mister T, Lucas Hernandez est un bien meilleur leader que l'est Kylian Mbappé. Mais ça, encore une fois, c'est la manie de Speedy Bap de vouloir à chaque fois le brassard, les clés du camion et pourquoi pas un jour les clés de l'arbitrage.
Et oui, en effet, Jerry, Mbappé, son jeu il a changé et le football, il a changé, comme il le disait lui-même si bien. Prochaine question, justement, qui est plus adressée maintenant du côté de Milan. Est-ce que tu penses que ça ne joue pas trop vers la droite, selon toi? Un peu trop dépendant du côté Hakimi Dembélé, sous-entendu, si je développe un peu la question.
J'ai compris, mais... en fait, le problème, c'est que quand Kylian Mbappé va vers la droite, je sens que vraiment le jeu est lié justement à ce côté droit et à Kylian Mbappé où il se place. Tu sens vraiment en fait qu'on essaie de jouer vers Hakimi, Hakimi joue forcément vers Kylian. Et en fait, je le vois depuis le début de la saison, même quand Ramos joue, il y a des fois où Ramos joue et on lui fait pas la passe juste parce que on préfère la mettre à Kylian Mbappé ou un truc comme ça, ou sur le côté droit. Sur le côté gauche, là, après, tu as quand même Hernandez qui reste bien en arrière. Même s'il y a des moments où il monte, contrairement à Hakimi qui monte beaucoup plus, justement, c'est à voir si Nuno Mendes revient dans le jeu, de voir si justement on ne jouerait pas un peu plus sur ce côté gauche, parce que les gars, il ne faut pas déconner, Barcola, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est très bon, et il faut aussi aller tenter, voilà. Après, le problème, c'est que on n'a pas un numéro 9, on n'a pas un numéro 9 qui reste à l'endroit où il devrait être, un espèce de pivot de game, comme dirait Mbappé. Mais pour moi, est-ce qu'on joue trop vers la droite? Si c'est là où Dembélé arrive à faire 2-3 différences et arrive à bien nous mettre, je vois pas que c'est un problème ou pas, tant qu'on joue de temps en temps vers la gauche et que Barcola fait son taf.
Alors bon, la prochaine question, je vais y répondre vite fait, parce que avant que Monsieur FGFG ne spamme le chat définitivement à tel point qu'on ne voit aucun autre commentaire, pour te répondre, je trouve que oui, ce sont des joueurs intéressants qui pourraient apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. En revanche, Olmo, ça reste un joueur qui a un gros potentiel de blessure. Et quand il sera absent pour blessure, tu prends qui à sa place? Ça veut dire que oui, c'est un joueur qui est intéressant, mais est-ce que c'est un joueur qui déjà se blesse beaucoup en Bundesliga, se blessait beaucoup dans le championnat croate? Est-ce que tu peux garantir que à son arrivée en Ligue 1, et nos milieux et nos défenseurs bien champêtres, qui aiment bien soulever de la fourche, de la paille, qui sont bien costauds, est-ce que, justement, Olmo, il n'a pas un risque de encore plus se blesser s'il vient en Ligue 1 que ce qu'il fait déjà en Bundesliga? Moi, je t'avoue que c'est un joueur que j'aime beaucoup, et si j'avais l'occasion de recruter Dani Olmo, je le ferais, mais est-ce que si tu fais Dani Olmo qui a des gros potentiels de blessures, tu n'as pas un risque aussi de rater d'autres joueurs qui peuvent répondre à un profil que le PSG a besoin? Et bloquer d'autres postes aussi. Mais non, en soi, question intéressante.
Est-ce que je peux juste intervenir sur un truc? Je vois beaucoup de monde, justement, vouloir Nuno Mendes ou Hernandez à gauche avec Hakimi. Alors, juste ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment on va défendre avec si on met Lucas Hernandez défendre. Enfin, je sais pas ce que vous voyez. Moi, je le vois beaucoup sur Twitter. En fait, le problème, c'est que là, on voulait partir avec deux latéraux ultra offensifs et que deux défenseurs centraux, dont un. Lucas Hernandez qui monte quand même assez. Donc, on va se retrouver avec un défenseur fixe tout le temps. Moi, je pose la question à Soura et Tonton.
Demande à Liverpool.
Ça demandera qui sera ton 6.
Oui, c'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui...
Ça existe. Ça existe. C'est Barcelone, t'avais Dani Alves et Jordi Alba.
Jordi Alba, ouais.
Énormément. Surtout Jordi Alba, hein. Il n'est pas très connu pour pouvoir faire des replis défensifs, celui-là.
Est-ce que tu trouves que Dani Alves, il faisait plus?
Pas du tout non plus. Trent Alexander-Arnold, c'est quasiment une mezzala, c'est même pas un latéral. Robertson, lui, c'est peut-être le latéral le plus complet qui existe. Robertson, c'est le latéral quasiment parfait, quasiment.
Méchant comme il faut.
Exactement. À Chelsea, même s'il y a des blessures et ils sont plus au niveau, Chilwell et Reece James, c'est quand même assez offensif pour le coup. Non, comme l'a dit Tonton, il suffit juste d'avoir un numéro 6. Il est sur le banc, mais Il faut que tu aies un numéro 6 qui sache faire la chape de proue entre tes défenseurs centraux pour pouvoir apporter une certaine largeur en défense centrale et avoir tes trois défenseurs qui vont pouvoir équilibrer ton effectif lors de contre-attaque et espérer
comme
Fabinho, tout simplement...
comme Casimiro, comme tous ces numéros voilà. 6. Exactement.
Alors justement, je vais reprendre justement les dernières questions du chat, il n'en reste que deux, il y en a des intéressantes en plus. Ouais, non, désolé, je reste faillible, Kevin, malheureusement, je ne suis qu'un être humain, je ne peux pas faire défiler tout le chat, surtout quand vous êtes aussi nombreux que ce soir. Et justement, la dernière question est un peu plus intéressante, elle sera un peu plus générale. Pourquoi une stratégie de patienter, pourquoi pas une stratégie de patienter les bonnes occasions et de tout de suite changer l'effectif à chaque mercato, ce qui nous éviterait de faire une Colomoigny? Alors pour te répondre, cette stratégie, c'était un peu la stratégie de Leonardo, le mercato d'opportunité. En revanche, le problème, c'est que quand tu fais un mercato d'opportunité, tu ne cibles pas forcément tes besoins, tu cibles plus les opportunités de marché. Et c'est ça qui me pose un peu problème. Moi, je pense que si tu pars sur un projet avec Luis Enrique à moyen-long terme, parce qu'on ne sait pas combien de temps il va rester, bah, logiquement, bah, tu dois le laisser recruter les joueurs qui vont répondre à son style de jeu et qui vont pouvoir l'appliquer. Tu ne vas pas recruter, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu vois, sans lui manquer de respect, tu ne vas pas recruter un Danilo à 70 millions pour le faire jouer numéro 6 sous Luis Enrique. Ça n'aurait aucun sens. Donc oui, bien sûr, ça peut ressembler un peu à un mercato FIFA, et je peux te rejoindre là-dessus, des fois, ce truc de... Pourquoi ne pas laisser plus de temps à l'effectif? Mais quand tu as autant de carences dans l'effectif vis-à-vis de ce que demande Luis Enrique et de son style de jeu, ben je pense que tu as besoin de faire des profondes rénovations dans cet effectif. Et ça va te prendre 2-3 ans, histoire de faire plusieurs mercatos pour boucher chaque manque et évacuer les joueurs qui ne sont pas Lucho compatibles, entre guillemets. Et je vais maintenant laisser Soura et Milan répondre à cette question.
Bah. Ce qu'il dit sur la stratégie de changer d'effectif à chaque mercato, ça c'est Marseille qui le fait, c'est pas nous. On change pas notre effectif à chaque mercato, parce que si on prend en compte les 2-3 dernières saisons, bah pour le coup c'était juste du remplissage de certains joueurs et de la rotation. L'année dernière, c'était une année spéciale. Tu perds 3-4 joueurs très importants dans ton effectif, et derrière tu essayes de réarmer tout ça. Déjà tu réarmes ton banc, tu réarmes ton 11 avec des joueurs de qualité l'année prochaine. C'est pas du réarmement, c'est du renforcement que tu dois faire. Tu dois aller chercher, comme l'avait dit Kevzor, deux gros milieux de terrain de classe internationale, un top défenseur central, Eleni Yoro, parce que ça, il ne faudra pas le rater. Et surtout, soit tu décides de prendre un neuf, soit tu fais confiance à Gonzalo Ramos. Parce que pour moi, Colomoigny, je pense que son avenir est sur un côté ou sur la vente. Donc pour moi, ça, c'est l'objectif. Deux milieux de terrain très importants. Un défenseur central de haut niveau, je ne sais pas moi, par exemple, pourquoi pas aller chercher, admettons Marquinhos est titulaire et que tu fais confiance à Hernandez pour passer à Nuno Mendes, par exemple, à Alessandro Bastoni. Un exemple, moi j'aimerais beaucoup, mais bon, tu vas chercher ce genre de défenseur central-là, tu complètes par Leny Yoro. Si tu veux, tu continues à faire confiance à certains jeunes à fort potentiel avec, par exemple, un Désiré Doué, par exemple. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est renforcer. Et les opportunités, par exemple, c'est si jamais tu commences à te rendre compte, parce que je le vois sur par rapport à certains journalistes qui le disent, si tu te rends compte par exemple qu'un Matistel, il est un peu en manque de temps de jeu et qu'il a envie de partir, voilà, c'est de l'opportunité qui est opportune. Tu fonces dessus et tu vas directement recruter un Matistel. Là, il ne faudra pas le louper, et, parce que si c'est pour qu'il aille s'enterrer chez l'horrible Manchester United, bon, voilà, hein, y a déjà une ribambelle de joueurs qui sont partis s'enterrer, hein, n'est-ce pas, André Onana? Donc ça, c'est de l'opportunité. Et pourtant, il s'en sort bien en plus, le petit. Il s'en sort bien.
Lui, tu vois, il avait un profil qui aurait pu être utile au PSG. Donc, ce serait bête d'en rater de suite pour aller à Manchester, à Ten Hag. Mais vas-y, Milan, je te laisse conclure sur la question.
En fait, je trouve que va falloir prendre des joueurs. En fait, ça sert à rien de changer tout l'effectif, mais il faut des joueurs confirmés. Des joueurs confirmés en Europe. Des joueurs qui, comme Hernandez, on va le chercher cet été. Bah, c'est un joueur confirmé et il ne déçoit pas. Bizarrement, hein, on se pose la question. Ousmane Dembélé, on va pas le considérer comme un joueur. Enfin, ah, si, quand même. Mais en fait, il faut des joueurs qui, en Europe, ont déjà réussi. J'adore le joueur, Vitinha n'avait jamais réussi en Europe, bon à Porto voilà, c'était très bon, mais en Ligue des Champions ou des deux moments qui comptent, bah, c'était un pari. En fait, on fait trop des choix de pari, c'est-à-dire qu'en gros on va chercher des joueurs. Kangin Lee, c'est un pari. Fabian Ruiz, bon, même si à l'époque il y avait beaucoup de monde qui le suivait, en Europe bah, il n'a jamais été extraordinaire non plus. Ugarte, c'est un pari. Colomoigny, c'est un pari. En fait, on fait que des paris. Et au milieu de terrain aujourd'hui, le problème c'est qui est confirmé au milieu de terrain? En défense, on a des joueurs confirmés. En attaque, on a des joueurs confirmés. Mais en milieu de terrain, on n'a personne qui a l'expérience. À l'époque, quand tu avais Thiago Motta, Matuidi, Verratti, tu avais Verratti, le petit jeune, qui était très bon. Et tu avais Motta et Matuidi qui étaient des joueurs de savoir, des joueurs qui ils savent, en fait. Et on le sent, Thiago Motta, il y a une interview de lui il y a je sais plus combien de temps, il y a quelques mois, et en fait, il disait, j'étais comme un sort d'entraîneur sur le terrain, en fait. C'était ça, en fait. C'est ça, un joueur, il me faut des joueurs d'expérience. Marquinhos, c'est un joueur d'expérience. Hernandez, c'est un joueur d'expérience. Ils ont tous confirmé. Et ben, ça marche. Ce que fait City, c'est qu'ils ont une équipe confirmée et ils vont chercher des paris. Et après, ça marche ou ça marche pas. Calvin Phillips, ils ont pris un, c'était un pari. Bon, ils l'achètent très cher, mais ça n'a pas trop fonctionné. Et hop, ça part. Nous, en fait, le problème, c'est qu'on va prendre des paris au lieu de prendre des joueurs confirmés. C'est-à-dire qu'on va mettre des 30, 40 millions, voire des 50 sur Barcola, alors qu'il nous manque des joueurs, justement, dans ce milieu de terrain, dans cette attaque, où on a besoin, bon, cette attaque, non, mais on a besoin de joueurs qui, tu sais que tu les recrutes, tu sais qu'ils vont faire quelque chose. Bernardo Silva, c'était un joueur confirmé. On le sait, à Manchester City, à Monaco, il sait. Il arrive, il sait. Donc, c'est ça qui nous manque, en fait.
Et bien joué, Swapper. Alors, en effet, qui de mieux que Paris pour faire des paris? C'est une excellente question. Mais je trouve que c'était une bonne question pour conclure ce live. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Un live, quand même, qu'on a réussi à faire tenir pour un match plutôt très décevant. On va pas se mentir. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On se retrouve dès mercredi en live, justement, pour le live de la semaine. Oui, ce n'est plus le mardi midi. Maintenant, c'est le mercredi. On peut suivre, c'est un peu chiant, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. En tout cas, merci à Soa, Mylan et Kevzor qui n'est plus là d'avoir participé avec nous pour ce live. Merci aux quelques 500 personnes qui étaient présentes pendant le live. N'hésitez surtout pas à liker un maximum avant de partir pour aider au référencement et au développement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau sur l'émission. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On se dit à mercredi et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao.